Bonjour à tous, merci Raph pour ta prière. Je prie que le Seigneur nous parle encore ce matin. Est-ce que vous savez comment on peut avoir un bon coup de stress un dimanche matin? Vous faites comme moi, vous venez et vous découvrez que le PowerPoint que vous avez emmené, ce n'est pas la bonne version. Et donc vous retournez vite chez vous pour le récupérer. Voilà pour la petite histoire. Heureusement, j'espère que tout va aller mieux maintenant, qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pour vous comme pour moi, pour la suite de ce message. Dans la création de notre Seigneur, Dieu nous a offert la possibilité d'observer une transformation spectaculaire. Quelques mois après sa naissance, la chenille donc arrête de s'alimenter, s'accroche entre des feuilles et tisse un cocon autour d'elle. Elle ne bouge plus, on ne la voit plus, et à l'intérieur du cocon, elle se transforme en chrysalide d'abord, et ensuite, il en sort au bout de quelques semaines un joli papillon. Une transformation spectaculaire, extraordinaire. Et ce matin, je vous propose de voir un autre type de transformation, qui n'est pas moins spectaculaire, qui est sans doute encore plus spectaculaire à mon sens. Celle d'un homme qui, de trompeur, est devenu vainqueur. Cet homme, vous l'avez deviné en lisant, c'est Jacob. Et j'espère ce matin, on ne va pas voir toute la vie de Jacob, ça vous prendrait beaucoup trop de temps, on va voir certains éléments de sa vie. J'espère que ce matin, nous puissions vraiment être à l'écoute de la vie de cet homme et que peut-être ça puisse être un encouragement pour les uns et les autres pour relire l'histoire de la vie de Jacob sous un angle peut-être différent. Relire l'histoire de la vie d'un homme qui a été transformé, vraiment, qui est de trompeur et devenu vainqueur. Et le premier passage que je vous propose de lire, c'est Genèse 27, verset 36, tout simplement. Où c'est son frère Ésaü qui parle et qui dit « Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob, le trompeur entre parenthèses, qu'il m'a trompé par deux fois? D'abord il a pris mon droit d'aînesse et maintenant voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. » Le constat amer fait par Ésaü à cette occasion à l'encontre de son frère Jacob, c'est qu'il mérite bien son prénom, Jacob. Par deux fois, Jacob l'a trompé. Et par deux fois, Ésaü a été lésé. Pour mieux comprendre ce constat, il est bon de revenir sur l'histoire de Jacob. Peut-être que plusieurs parmi nous la connaissent, mais c'est bon de se rappeler cette histoire. Et les relations familiales compliquées qui pouvaient être vécues dans cette famille composée de Isaac, Rebecca et leurs deux enfants, Jacob et Ésaü. Après 20 ans de mariage, alors qu'Isaac a déjà 60 ans, l'héritier de la promesse n'est toujours pas là. Et Isaac se tourne vers Dieu et lui prie pour sa femme qui est stérile. Et Dieu accorde enfin à Rebecca cet enfant. Sauf qu'il y a une grosse surprise. Il n'y a pas un enfant, il y en a deux. Deux frères jumeaux qui vont naître. Au moment de l'accouchement, Ésaü, un nom qui signifie velu par rapport à son torse, à tous ses poils qu'il pouvait avoir, au contraire de moi, naît le premier, avec la main de son petit frère agrippée à son talon, d'où son nom de Jacob, qui signifie « talon », mais qui fait aussi assonance avec les verbes « supplanter », avec les verbes « tromper ». Assez rapidement, une préférence malheureuse s'établit dans la famille. Isaac, le père, préfère Ésaü, le sportif, le chasseur, alors que Rebecca, elle, préfère Jacob, le sociable, celui qui aime discuter dans les tentes. Et cette préférence n'est pas sans conséquence. On va le voir tout le long de l'histoire. Toute sa vie, Jacob va courir après la bénédiction du père. Toute sa vie, Jacob va courir après la bénédiction de son père. Et ça peut expliquer en partie pourquoi il a trompé son frère par deux fois. D'abord, c'est en rentrant d'une énième sortie dans les champs, sans doute pour chasser, qu'Ésaü arrive épuisé, affamé. Alors que Jacob, lui, justement, est en train de préparer un bon petit plat fait maison, à côté. Qu'est-ce qui se passe? Rien de plus logique. Et Ésaü demande de ce plat à son frère Jacob. Ça semble tout à fait normal et logique. Pas de problème. Mais la réaction de chacun de ses frères à ce moment-là est affligeante. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Les deux font preuve d'une réaction affligeante. D'abord, Jacob. Il fait du chantage à Ésaü. L'occasion est trop belle pour Jacob. Jacob décide d'en profiter pour passer un marché avec Ésaü. « Je te donne de mon plat si tu me donnes le droit d'aînesse. » Au lieu de lui donner de son plat, simplement par compassion pour son frère qui est harassé, qui est affamé, non, Jacob veut profiter de la situation. Il cherche à obtenir le droit d'aînesse sans aucun scrupule. Pour un simple plat, il veut ce qu'Ésaü lui donne son droit d'aînesse, qui symbolise le droit d'être le leader familial, avec toutes les prérogatives qui vont avec, dont, entre autres, une double part de l'héritage, selon Deutéronome 21. Jacob profite de la situation. Jacob fait du chantage à Ésaü. Mais de son côté, Ésaü n'est guère mieux. Il est incapable, lui, de contrôler ses désirs. Il aurait très bien pu demander à un serviteur de lui faire un plat. Il aurait très bien pu faire ce plat lui-même. Il savait le faire, on le verra dans la deuxième tromperie. Il savait préparer un repas. Ce n'est pas un problème. Mais au contraire, il fait preuve d'impatience. Il cherche une solution rapide pour apaiser son désir. Et il est prêt, pour cela, à vendre père et mère. C'est ce qu'il fait en vendant son droit d'aînesse. Il vend père et mère, quelque part. Pour un pauvre plat, il vend son droit d'aînesse, le droit d'être leader familial. Il montre par là qu'il ne se soucie pas de Dieu, en fait. Il montre par là qu'il méprise les choses saintes, comme le dit Hébreux 12, verset 16. Ésaü a méprisé les choses saintes. Ésaü s'en fiche du droit d'aînesse, alors que ça semble quelque chose de primordial pour Jacob. Mais aucun des deux n'est juste dans son attitude devant Dieu à ce moment-là. Qu'en est-il pour moi, pour nous ? Comment est-ce que nous comportons vis-à-vis de Dieu par rapport aux choses saintes ? Est-ce que nous sommes comme Ésaü, qui se moque bien de toute perspective spirituelle, qui se moque bien de Dieu, qui s'en fiche ? Si c'est le cas, nous faisons fausse route, évidemment. Mais cette première attitude est relativement simple à voir. C'est facile de voir quelqu'un qui s'en fiche de Dieu. La deuxième attitude, parfois, est aussi dans nos cœurs et est tout aussi grave, mais peut-être se voit moins facilement. Est-ce que nous sommes comme Jacob, qui était prêt par tous les moyens, et même les plus vicieux, les plus vils, à obtenir certains privilèges spirituels ? Quelle motivation nous habite notre cheminement spirituel ? Est-ce que c'est une forme de réussite spirituelle qu'on cherche à avoir pour être bien vu des autres ? Est-ce que c'est la jalousie qui m'habite parce que je vois telle personne qui a tel ministère ou tel don et je veux la même chose que lui ou qu'elle ? Est-ce que c'est une envie, un désir de montrer ce que je vaux ? T'as vu, moi je suis bien. Si c'est ce genre de choses qui est au cœur de ma motivation, dans ma perspective spirituelle, je fais autant fausse route que Jacob, et je ne suis pas mieux que celui qui s'en fiche de Dieu. L'une ou l'autre attitude est grave et décevante devant Dieu. Qu'est-ce qui est une motivation juste ? Notre cheminement spirituel. Je crois qu'entre autres, ça provient d'un désir de plaire d'abord à Dieu, le désir de le plaire. Ça part aussi du désir de servir ce qui nous entoure, tel ministère, tel don. C'est fait pour le service des uns et des autres, pas pour moi. Ça part aussi du désir d'être utile dans l'œuvre de Dieu, pour son plan à lui. Et si c'est ces choses-là qui me motivent, le désir de plaire à Dieu, je ne pourrais pas tromper, je ne pourrais pas utiliser des choses viles pour réussir spirituellement. Impossible. C'est ce désir qui m'habite d'être au service des autres. Ce sera là aussi le cas. Je ne pourrai pas y avoir cette attitude vicieuse comme Jacob l'a eu à cette occasion. Tous les moyens ne sont pas bons pour acquérir une réussite spirituelle. Dieu regarde à nos motivations plutôt qu'à nos dons d'abord ou nos œuvres. Bien plus tard, alors qu'Isaac est maintenant bien vieux, qu'il ne voit plus grand-chose, Jacob trompe une seconde fois Ésaü à l'aide d'un sacré stratagème. Rebecca, donc sa mère, surprend la conversation d'Isaac avec son fils Ésaü. Isaac demande à son fils de lui préparer un repas pour ensuite lui donner la bénédiction. Et Rebecca comprend que, du coup, son fils préféré, Jacob, va être lésé. Et donc avec Jacob, qu'est-ce qu'ils font ? Ils préparent un autre repas, rapidement. Rebecca pense à tout. Elle va même mettre jusqu'à mettre de la peau de chevreau sur les bras de Jacob et sur son coup, pour que Isaac croie que c'est bien Ésaü qui vient le voir. Elle pense à tout. Elle habille Jacob même avec des habits d'Ésaü. Mais arrivé devant Isaac, Isaac a des doutes. Est-ce que c'est bien Ésaü qui est devant moi ? Qu'est-ce que fait Jacob ? D'abord, il lui ment, effrontément. Il lui dit « Oui, je suis ton fils, Ésaü. » Mensonge. Pire encore, il poursuit dans le mensonge en y intégrant Dieu. Il se permet d'utiliser délibérément le nom de Dieu pour soutenir son mensonge. Quand Isaac se pose des questions sur la rapidité avec laquelle son fils a pu chasser, je ne sais pas, un chevreuil, je ne sais pas ce que c'était ce qu'il avait chassé, pour lui préparer ensuite un plat, Jacob lui dit « C'est l'Éternel, ton Dieu, pas mon Dieu, hein, ton Dieu, qui l'a amené sur mon chemin. » Il intègre Dieu à son mensonge, encore pire. Isaac, finalement, touche Jacob pour s'assurer de cela. Et grâce à ses habits, à sa peau, il tombe dans le panneau. Il pense que c'est bien Ésaü qui est devant lui. Jacob a réussi son coup, il est béni. Il est béni par son père Isaac, à la place d'Ésaü. Jacob veut tellement cette bénédiction du père qu'il est prêt à prendre tous les risques pour cela. Parce qu'il y avait un gros risque quand même de se faire attraper par son père, de se faire avoir sur ce coup-là. Et ce n'est pas une bénédiction qu'il aurait eue à cette occasion-là, sûrement pas. Ça marche, il a reçu la bénédiction de son père. Est-ce que cette seconde tromperie de Jacob montre quelque part que le crime paye ? Est-ce que aujourd'hui nous devrions aider, entre guillemets, Dieu par tous les moyens nécessaires pour qu'il réalise son plan dans nos vies ? Après tout, c'est à Jacob que cette bénédiction devait revenir. Dès leur naissance, l'Éternel avait dit que l'aîné serait assujetti au cadet. C'est Jacob qui devait recevoir cette bénédiction. Est-ce que Jacob a eu raison de forcer son destin en trompant son père ? Et Ésaü par la même occasion. Les terribles conséquences qui ont suivi cet acte de Jacob à cause de sa tromperie sont là pour témoigner que le crime paye peut-être. Jacob a reçu sa bénédiction, mais qu'il a des conséquences au crime aussi. On ne saura jamais comment Dieu avait prévu les choses pour retourner la situation et permettre que Jacob reçoive la bénédiction. Parce que Jacob a agi avant. Jacob a trompé son père pour cela. David, le roi David, lui est un bien meilleur modèle sur cet aspect-là. Alors qu'il avait reçu l'onction, alors que Dieu lui avait dit qu'il deviendrait roi, et alors qu'il avait la possibilité de tuer Saül, le roi désobéissant à Dieu, alors que ses soldats lui disaient « Vas-y David, c'est le moment, c'est l'occasion !» Qu'est-ce qu'il a fait David ? Il a dit non. C'est le plan de Dieu qui doit se réaliser. Je ne forcerai pas les choses. Est-ce que je suis un Jacob ? Est-ce que je suis un David ? Est-ce que je veux aider, entre guillemets ? Est-ce que je veux forcer, entre guillemets, Dieu, par tous les moyens nécessaires et possibles, au lieu d'attendre la réalisation de son plan dans ma vie ? C'est une tentation qu'on peut avoir les uns et les autres à différents niveaux. Les conséquences d'une telle attitude peuvent être très lourdes, comme on va le voir avec Jacob. Et on va lire un autre passage maintenant, dans Genèse 31, versets 41 à 42. Et maintenant, c'est Jacob qui parle et qui fait un constat qui ressemble étrangement à celui d'Ésaü par rapport à son frère. Jacob, Genèse 31, versets 41 à 42. « Voilà 20 ans que je vis ainsi chez toi. Pendant 14 ans, je t'ai servi pour tes deux filles, puis pendant 6 ans pour ton bétail. » 10 fois tu as changé les conditions de mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et celui qui redoute Isaac, n'avait pas été de mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère, et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Après le constat amer d'Ésaü, à propos de Jacob, c'est étrangement à Jacob d'avoir le même constat. Il a lui aussi été roulé dans la farine, durant de nombreuses années. Et là encore, il est bon de revenir un peu en arrière pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Suite à cette seconde tromperie, Jacob doit fuir, car il a peur. Ésaü veut le tuer. Il quitte sa famille pour rejoindre Padam Aram, où vit la famille de sa mère, de Rebecca. En même temps, quelque part, il est temps qu'il quitte le foyer familial, il a déjà 77 ans à ce moment-là. Il ne sait pas à ce moment-là quand il part, mais il ne reviendra pas avant 20 ans. Il ne reverra plus jamais sa mère, Rebecca, plus jamais. Une sacrée surprise l'attend arrivé à Padam Aram. Il va trouver encore plus fort que lui dans l'art de la tromperie. Il va trouver encore plus manipulateur que lui avec Laban, son oncle. Jacob, qui a tellement comploté, tellement manigancé, va se retrouver dans la peau de la victime maintenant. La roue tourne. Jacob, le trompeur, va être trompé à son tour. En deux occasions, là aussi, en particulier. D'abord, lors de son mariage. Laban a deux filles. Une mignonne et une moins. Voilà ce que dit la Bible. Et en à peine un mois, Jacob tombe amoureux de la mignonne, forcément, c'est comme ça. Rachel. Il est tellement amoureux qu'il travaille d'arrache-pied pendant 7 ans pour obtenir Rachel. Mais au bout de 7 ans, il se rend compte qu'il n'a pas été marié à la bonne fille. Mince. Ce n'est pas Rachel qu'il a épousée, mais bien Léa, la sœur aînée. On se demande souvent comment une telle supercherie est possible. Un mélange de voile, d'obscurité, d'alcool peut-être. Cela semble fou, mais en même temps, c'est encore possible aujourd'hui. En 2001, à L'Ouvrier, dans le département de l'Eure, un mariage blanc a eu lieu entre un homme turc, d'une 40aine d'années, et une jeune fille française de 16 ans. La mère s'était arrangée avec l'homme pour obtenir une certaine somme d'argent en échange. Le problème, c'est que le jour J, cette jeune fille de 16 ans n'a pas pu se rendre à la mairie. Ah, comment on fait dans ces cas-là? La mère a pris la plus jeune sœur, qui avait 12 ans, et l'a amenée à la place de sa sœur aînée pour se marier. La mairie, selon les services, la mairie n'est pas en tort, bien sûr. La mariée s'est présentée en voile. Elle avait toute l'apparence d'une jeune femme de 16 ans, d'après eux. La supercherie a été masquée un peu plus tard par des éducateurs qui s'occupaient de la sœur aînée à qui elle a parlé, témoigné de ce qui s'était passé, quoi. Donc encore aujourd'hui, c'est possible. Jacob, lui en tout cas, se trouve à la place de l'arroseur arrosé. Il avait trompé son père en se substituant à son frère. Laban trompe Jacob en substituant une sœur à l'autre, l'arroseur arrosé. Et Jacob, il n'a pas le choix. Il doit rempiler pour 7 ans encore, pour travailler, pour obtenir enfin Rachel. Et là, ensuite, on va déboucher encore sur un éternel recommencement, une histoire de préférence entre les deux femmes. Ça, c'est toujours la même histoire. Hein. Bon, ce n'est pas l'histoire qu'on va aborder maintenant, mais toujours dans ces familles patriarcales, des problèmes de préférence. Deuxième occasion où Jacob est trompé, c'est sur son salaire, sur son travail. Après 14 ans de dur labeur pour obtenir ses deux femmes, Rachel et Léa, Jacob veut retourner chez lui, mais il est retenu par Laban. Pourquoi ? Laban aime bien Jacob ? Non, c'est pas ça. Laban a compris par divination que si ses affaires tournaient bien, c'était grâce à Jacob, parce que Jacob avait la bénédiction de l'Éternel sur lui. Et donc, il fait tout pour garder Jacob auprès de lui. Pas bête, le gars. Hein, il a envie que son troupeau, que ses affaires fonctionnent encore. Et il sait qu'avec Jacob, ça a marché. Et donc, il lui demande de continuer de travailler avec lui, mais de fixer, il dit à Jacob, tu peux fixer ton salaire. Dans cette région du monde, les moutons et les chèvres, a priori, sont généralement de couleur unie. Les moutons blancs, les chèvres noires. Ça, c'est voilà, facile à reconnaître. Et Jacob lui demande de recevoir comme salaire uniquement les moutons et les chèvres ayant une couleur ou un pelage anormaux, c'est-à-dire rayé ou tacheté. Laban, lui, ça l'arrange bien, déjà d'une part, parce qu'on en a moins. Mais il va quand même chercher encore à tromper Jacob une nouvelle fois. Il sépare tous les animaux rayés et tachetés de son propre troupeau et en fait quoi ? Il les donne à ses propres enfants, à ses fils. Jacob, il n'a plus rien là. Plus rien. Ça va pas à peine quelques jours après d'avoir fixé son salaire. Mais bon, Jacob continue lui aussi à user stratagème, et pour s'en sortir, il va utiliser ces fameux rameaux là, je ne sais pas comment ça marche, mais où il met les rameaux devant les yeux des bêtes quand elles s'accouplent, et après, elles mettent bas de petits rayés tachetés, ça va faire agrandir son troupeau. Mais en même temps, Jacob commence à comprendre quand même quelque chose. Il comprend que ce n'est pas parce qu'il met des rameaux devant les yeux de ses chèvres que ça marche, mais parce que Dieu le bénit. Parce que Dieu est avec lui. Et il fait ce constat, ces deux femmes, Léa et Rachel, Heureusement, Dieu n'a pas permis à Laban de me causer du tort. Il fait le constat que dans toutes ces difficultés, dans toute cette tromperie qu'il a subie, Dieu l'a quand même préservé dans une certaine mesure. La tromperie de Jacob lui a coûté cher. Il a été trompé lui-même dans des domaines essentiels de la vie. Le mariage, le travail, la vie de famille, la vie professionnelle. Et comme le dit le proverbe, il a récolté ce qu'il avait semé. Mais en même temps, pendant ces 20 années difficiles auprès de Laban, Jacob a eu l'occasion de goûter la fidélité de Dieu malgré tout. Dieu a été fidèle envers lui, un homme bien imparfait, mais héritier de la bénédiction d'Abraham. Dieu lui a accordé une certaine protection, une certaine réussite, tout en lui donnant de sévères leçons pour le faire réfléchir. Jacob était dans l'erreur quand il a trompé Ésaü. Et il en a subi des conséquences. Mais Dieu n'a pas abandonné Jacob. Dieu n'a pas abandonné Jacob. Il est resté auprès de lui. Dans une certaine mesure, il a protégé. Dans une certaine mesure, il a permis qu'il réussisse. Et cela n'a pas changé aujourd'hui. Il peut nous arriver de nous planter lamentablement et de devoir en subir les conséquences. Mais Dieu ne nous abandonne pas pour cela. Dieu reste avec nous. C'est souvent dans ces occasions-là que nous pouvons goûter au privilège de la fidélité et de sa protection à notre égard, même si nous devons subir les conséquences de nos actes. J'ai un ami dans mon ancienne église, donc en Alsace, qui, il y a quelques années, s'est engagé avec l'équipe municipale de la ville de Mulhouse. Et un peu plus tard, on a découvert, ou en tout cas, il s'était découvert qu'il avait fait du détournement de fonds. Il était condamné pour cela. Il a dû aller en prison pour cela. Mais ça a été un électrochoc dans sa vie spirituelle. Et Dieu, quelque part, l'a protégé dans ce sens, qu'il a permis qu'il revienne à lui. Dieu a permis que les choses n'aillent pas dans la pire situation. Et il témoigne lui-même aujourd'hui que Dieu l'a gardé quelque part. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous préserve d'une certaine mesure, mais il n'enlève pas les conséquences de nos actes, parce que nous avons besoin parfois de réfléchir sur les conséquences de nos actes, tout en sachant que Dieu ne nous abandonne pas dans ces occasions-là, que Dieu est toujours présent et que Dieu peut nous préserver dans une certaine mesure aussi. Un dernier texte pour ce matin, un texte qui est un peu mystérieux souvent quand on le lit. Genèse 32, versets 25 à 31. 32, verset 25. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ?» demanda l'homme. Jacob répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Jacob a 97 ans. Il peut enfin quitter Laban après 20 ans de service à ses côtés. Il s'enfuit pour retourner au pays de ses pères, selon Genèse 31, verset 3. Mais en faisant cela, il sait qu'il va au-devant des ennuis aussi. Parce qui sait qui va retrouver là-bas ? Ésaü, son frère. Et Ésaü vient justement vers Jacob avec 400 hommes. Ça risque de barder. Il a peur, Jacob. Je pense que c'est assez logique qu'il ait peur à ce moment-là. Il va chercher à amadouer son frère. Il va envoyer des cadeaux. Des bêtes, des troupeaux. 5 vagues de cadeaux. Enfin, il va essayer d'amadouer. Mais dans le même temps, il prie aussi Dieu pour qu'il le protège, lui et les siens. Et peut-être pour la première fois de sa vie, il veut se repentir. Genèse 32, versets 10 à 13. Jacob prie. Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur, car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer que nul ne peut compter. C'est peut-être la première prière que Jacob adresse directement à l'Éternel. Une vraie prière de repentance, une vraie prière d'action de Dieu dans sa vie. Et après tous ces événements, il s'isole, il est seul. Pour un événement, Elie Wiesel, philosophe d'origine juive et prix Nobel de la paix, décrit comme une aventure étrange, mystérieuse de bout en bout, d'une beauté à faire frémir, d'une intensité à faire douter des sens. Qui n'a-t-elle fasciné ? Philosophes et poètes, rabbins et conteurs, tous cherchent à résoudre l'énigme de ce qui s'est passé cette nuit-là à quelques pas du ruisseau Yabok. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Jacob, je crois, vit l'expérience de sa vie. Il ne sera plus jamais le même après cet événement. Deux choses en particulier vont se passer. D'abord, Jacob va lutter. Jacob est attaqué. Il doit lutter contre un homme. Qui est cet adversaire ? Ce sont les propos de Jacob même au verset 31, où il dit « J'ai vu Dieu face à face ». Il s'agit d'une manifestation de Dieu, d'une théophanie. Osée 12, verset 5 rajoute à ce propos « Dans son âge mûr, Jacob lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il sortit vainqueur. » Beaucoup de commentateurs voient dans cette manifestation de Dieu qui lutte avec Jacob, l'ange de l'Éternel, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et qui semble être la manifestation de Christ avant son incarnation. Il semblerait que Jacob lutte avec la deuxième personne de la Trinité, avec le Fils. Connaître l'adversaire de Jésus, de Jacob, ne fait que rendre ce passage encore plus mystérieux quelque part. Parce que s'il arrive que Dieu manifeste son désaccord, que Dieu soit en colère contre son peuple et les siens, c'est l'unique fois où il y a un corps à corps entre Dieu et un homme. Un phénomène unique, exceptionnel. Dieu face à un homme. Il n'y a pas de lutte plus déséquilibrée que celle-ci. Même nous face à une fourmi, c'est moins déséquilibré encore. Il ne faut pas s'y tromper dans cette lutte. Ça ressemble plus à un catch entre un père et son fils pour Dieu qu'à autre chose. Quand Tom était plus petit, mon fils aîné, on avait l'habitude de faire la bagarre ensemble, parce qu'il aimait bien. Bon, il a grandi, j'ai un peu arrêté, puis je me dis, s'il continue à grandir, Donc je me suis dit, vaut mieux arrêter un peu avant. Mais il aimait faire sa bagarre, comme tous les garçons, je pense. Et souvent, je le laissais gagner, quand même. J'étais sympa, pas toujours, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop orgueilleux non plus. Mais souvent, la plupart du temps, c'est lui qui gagnait. Et c'est la même chose qui se passe ici, il ne faut pas s'y tromper. Si Dieu avait vraiment lutté avec Jacob, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Jacob. Il n'y a pas de lutte entre Dieu et un homme. Non, la lutte que Dieu provoque vis-à-vis de Jacob est une lutte qui a une vocation éducatif, je dirais. Il veut faire apprendre quelque chose à Jacob à travers cette lutte. Il se bat pour des raisons pédagogiques. Au cours de sa lutte avec Jacob, Dieu ne le détruit pas. Ce n'est pas son but. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui démêle la hanche. Heureusement, je n'ai jamais fait ça avec Tom, j'aurais eu un problème avec sa mère. Ça va. Il lui démêle la hanche. Il luxe la hanche gauche, de sorte que Jacob va boiter pour le restant de ses jours. Et c'est simplement le touchant, c'est une traduction qui est meilleure que celle de frapper ou de porter un coup, que cette hanche se démet. Ce qui montre encore une fois que ce n'est pas un humain. Moi, quand je touche une hanche, je peux toucher vos hanches, on va éviter peut-être plus ses épaules. Vous n'allez pas vous démettre vos épaules, bien entendu. Pourquoi cet acte ? Pourquoi Dieu fait cela à ce moment-là ? Peut-être pour que cet événement soit jamais dans les mémoires de Jacob. Peut-être aussi pour le garder dans l'humilité par rapport aux bénédictions dont il est le bénéficiaire. Mais dans tous les cas, ce qui ressort, c'est que Jacob ne sort pas indemne de cette lutte. Il est marqué à vie dans son corps. Et il va être marqué à vie dans son âme aussi. Une lutte acharnée aussi. Jacob se bat jusqu'à l'aube. Il lutte toute la nuit avec persévérance. Jacob ne veut pas lâcher le morceau. Il veut quelque chose de précis de son adversaire. Toujours la même chose. Quoi ? La bénédiction. Mais pas la bénédiction de son père terrestre maintenant. Il veut la bénédiction de Dieu. Parce qu'il a bien compris qui est en face de lui. il est prêt à continuer à lutter encore pendant longtemps malgré cette blessure. Et vers la fin, Dieu veut partir avant que le jour ne se lève. Pourquoi ? Sans doute par compassion pour lui. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et c'est ce que Jacob dit. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. À travers cette lutte déséquilibrée, marquante, acharnée, Jacob nous montre à quel point la bénédiction de Dieu avait du prix à ses yeux. En réclamant cette bénédiction, il dévoile aussi, je crois, qu'il a enfin compris son besoin de la miséricorde, de la bienveillance de Dieu dans sa vie. Lui qui avait toujours essayé de se débrouiller seul, par des petits traquenards, par des tromperies, il comprend qu'il doit se mettre, qu'il doit dépendre maintenant de Dieu, qu'il doit se soumettre à Dieu, qu'il doit réclamer sa bénédiction. Et pour réclamer sa bénédiction, il doit être dans la soumission envers Dieu. Est-ce qu'il m'arrive de lutter avec Dieu dans nos vies respectives ? Est-ce qu'il nous arrive parfois d'avoir l'impression d'être malmené dans la vie ? Si c'est le cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est peut-être aussi parce que Dieu cherche à nous parler. On peut ressembler à Jacob, vouloir se débrouiller tout seul. On sait ce qu'on veut, on ne se soucie plus trop de ce que Dieu veut, mais on sait ce qu'on veut nous. On veut une vie tranquille peut-être, la santé, une vie professionnelle satisfaisante, de bonnes relations avec les autres, etc. Mais Dieu lui veut peut-être, Dieu lui veut sûrement des disciples. Il veut des témoins. Il veut des fils qui manifestent sa gloire. Et pour cela, Dieu doit parfois lutter dans nos vies, lutter dans nos cœurs, lutter dans nos priorités. Il y a bien des années, avec Manu, Manu était enceinte à ce moment-là, nous venions d'acheter un appartement, et puis tout roulait, j'avais l'impression de tout réussir. Et en l'espace de quelques semaines, nous avons perdu tous les deux nos boulots respectifs. Et Dieu, je crois, nous a marqué à ce moment-là de comprendre que nous devions dépendre de lui. Que ma vie n'est pas indépendante de Dieu. Ma vie est dépendante de Dieu. Ma vie doit être dans la dépendance de Dieu, dans la soumission à Dieu. Jacob était dans une situation inconfortable avec son frère Ésaü qui venait à lui. Et c'est précisément souvent dans ces situations de vie inconfortable que nous pouvons vivre les uns les autres que Dieu intervient et parle dans nos cœurs. C'est souvent dans ces moments où on reconnaît notre besoin de lui, notre dépendance à lui, que nous aurons l'occasion de faire des bons dans la foi. À ce propos, C.S. Lewis a dit « Dieu chuchote à notre oreille dans la joie, il parle à notre conscience, mais il hurle à travers nos souffrances. » La souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde devenu sourd. Et de son côté, Watchman Nee, qui a été emprisonné à cause de sa foi pendant 20 ans en Chine, a dit un jour « Nous n'apprenons jamais rien de nouveau sur Dieu, à moins de tomber dans l'épreuve. » Nous n'apprenons jamais rien de nouveau sur Dieu, à moins de tomber dans l'épreuve. Jacob a lutté. Jacob a changé de nom aussi. Après cette lutte, Dieu demande à Jacob son nom avant de le bénir. Pourquoi ? Est-ce que Dieu avait peur de s'être loupé avec l'obscurité ? S'est trompé de gars, Dieu ? Quand Dieu pose une question, la plupart du temps, ce n'est pas pour apprendre quelque chose de notre part, parce qu'on n'a pas grand-chose à lui apprendre, voire rien du tout, en fait. Quand Dieu pose une question, c'est plutôt comme un prof pose une question à un élève, pour savoir s'il a bien compris, s'il a bien réalisé les choses, s'il a bien saisi la leçon. Pourquoi Dieu demande à Jacob son nom ? Je pense c'est pour que Jacob réalise que dans son nom, il y a quelque chose de son péché, la tromperie. Il veut lui faire prendre conscience que son nom dévoile son péché. Dieu veut que Jacob admette qu'il est un trompeur, qu'il est pécheur. Après que Jacob lui ait donné son nom, et je crois que Jacob a pris conscience d'une manière nouvelle à ce moment-là, de son péché, de sa tromperie. Dieu fait quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui est extraordinaire pour Jacob. Il lui change de nom, ce qui est une prérogative divine, une prérogative de l'autorité de Dieu sur Jacob. Il change le nom de Jacob. Il n'est plus Jacob le trompeur, il est Israël le vainqueur. Son nom signifie celui qui lutte victorieusement avec Dieu, ou celui qui persévère avec Dieu, D'autres traducteurs affirment que ce nom peut aussi signifier « Dieu règne ». En changeant son nom en Israël, Dieu accorde à Jacob, je crois, son pardon. Il lui accorde une nouvelle dignité. Il portera le nom de Dieu face aux nations avec cette promesse. Il sera vainqueur. Finalement, après ce changement de nom qui signifie tant pour Jacob, Dieu le bénit enfin. Dieu lui accorde sa bénédiction, cette bénédiction après laquelle Jacob a couru toute sa vie. Dieu lui accorde à ce moment-là. Quelqu'un a dit, la nature nous forme, la société nous réforme, le diable nous déforme, mais Dieu, lui, nous transforme. Dieu nous transforme. Et c'est justement, je crois, ce qui est arrivé à Jacob à ce moment-là. Jacob, le trompeur, est sorti complètement transformé de cette lutte. Il sort de cette lutte en perdant son ancien nom de Jacob. Il n'est plus le trompeur. Son péché est pardonné. Il est bien conscient de l'état de son péché. Mais il sait qu'il a reçu le pardon de Dieu. Il sort de cette lutte aussi en gagnant un nouveau nom, Israël, il est le vainqueur. De nouvelles perspectives s'ouvrent à lui. Sa vie est sous le regard de Dieu. Il est dépendant de Dieu. Et parce qu'il est dépendant de Dieu, parce qu'il est soumis à Dieu, il est béni par Dieu. Qu'en est-il pour nous ? Est-ce que je suis bien conscient de mon propre péché ? Comme Jacob, je suis appelé à reconnaître que je suis tordu, que mon cœur est tordu, à accepter le pardon que m'offre Christ, à marcher avec lui, à me soumettre à lui. Est-ce que je suis bien conscient de ma propre destinée ? Le livre de l'Apocalypse nous révèle des promesses inimaginables. Et parmi celles-ci, parmi tous ces privilèges, nous aurons un nom nouveau. Un nom peut-être qui reflètera quelque chose de la gloire de Dieu, qui reflètera quelque chose de la grâce de Dieu pour nous. Un nom nouveau. De toutes nouvelles perspectives s'ouvrent à nous. Nous sommes bénis par Dieu à travers le sang de son Fils. En conclusion, peut-être ce matin, tu t'es reconnu en Jacob, le trompeur né, parce que tu es conscient d'un péché récurrent dans ta vie, d'être tordu d'une manière ou d'une autre. Peut-être ce matin, tu t'es reconnu dans Jacob, le trompeur trompé, parce que toi-même, tu as été victime d'abus d'une manière ou d'une autre, parce que toi-même, on t'a bien eu à un moment donné dans ta vie. Mais j'espère de tout cœur que ce matin, tu te reconnais dans Jacob, le trompeur transformé. Parce que c'est l'essence même de notre foi. Dieu transforme des vies. C'est son job. Et il est bon dans ce job. Dieu prend vraiment n'importe qui, comme Jacob, et fait une œuvre de transformation incroyable. Vous savez quelle est la plus grande preuve de cela ? Il nous a pris, vous et moi. Il a pris n'importe qui. Désolé de vous dire ça comme ça. Mais il réalise une œuvre de transformation extraordinaire, pas à pas, dans notre cheminement spirituel. On va voir le temps de scène après, avec Philippe qui présentera cette pensée de l'œuvre transformatrice de Dieu dans nos vies puisse nous habiter vraiment. Amen.